autour de la question. D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
C'est pour qui ?
À quoi ça sert ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditeurs, pour cette dernière semaine de rediffusion des meilleurs moments de l'année. Nous vous proposons une émission spéciale, astronomique et spatiale, à la découverte de la matière cachée de l'univers. Près de 40% tout de même de la matière ordinaire, qui constitue tout l'univers des galaxies jusqu'à nous, poussière d'étoiles, manquait mystérieusement à l'appel. Inobservable, indétectable, jusqu'au 6 novembre 2020, quand notre invitée, l'astrophysicienne et cosmologiste Nabila Aghanim, et son équipe de l'Institut d'astrophysique spatiale du CNRS à l'Université Paris-Saclay, ont réussi à mettre en évidence pour la première fois ces baryons manquants dans la toile cosmique de l'univers. Sidéral et sidérant, de quoi ouvrir une nouvelle fenêtre sur l'origine du monde carrément et son évolution, comme nous l'avait fait partager avec l'enthousiasme qui la caractérise, la cosmologiste Nabila Aghanim, spécialiste du rayonnement fossile de l'univers, membre des collaborations Planck et Euclide, c'était le 13 janvier dernier. Nous en avions aussi profité pour faire réagir Nabila Aghanim à notre éphémérie du ciel d'Afrique, que vous retrouverez réactualisée pour cette fin d'été. On en profite aussi pour saluer notre dernier lauréat de la lunette astronomique, offerte par SSVI et RFI en partenariat avec la revue web L'Astronomie Afrique. C'est Diémé Kaseha à Lubumbashi, en République démocratique du Congo, qui devrait la recevoir sous peu, rejoignant ainsi notre super réseau d'astronomes amateurs et partageurs sous le ciel d'Afrique. Bienvenue à tous et toutes autour de la question « Comment découvrir la matière cachée de l'univers ?» Oui, bienvenue sous les étoiles, exactement. Bonjour Nabila Aghanim.
Bonjour.
Je suis vraiment très heureuse de vous recevoir en direct, en vrai, hein, en présentiel, comme on dit aujourd'hui, dans notre studio pour partager donc cette découverte insensée, sidérale, que vous avez faite avec votre équipe, hein, publiée dans la prestigieuse revue Astronomy and Astrophysics le 6 novembre 2020. Vous avez mis en évidence pour la première fois la matière cachée de l'univers, ces baryons manquants entre les filaments de la toile cosmique. Et le plus fort, si j'ose dire, c'est que vous avez enfin pu la décrire, cette matière manquante, à partir d'études et de relevés recueillis il y a quelques années par le satellite Planck, il y a près de 20 ans hein, déjà, car l'astrophysicienne et cosmologiste que vous êtes, directrice de recherche CNRS à l'Institut d'astrophysique spatiale de l'Université Paris-Saclay, vous êtes également médaille d'argent hein, du CNRS, Nabila, traquée depuis plusieurs années avec la collaboration Planck et aujourd'hui avec le projet Euclide, vous traquez cette matière cachée de l'univers qui est un peu le Graal des cosmologistes. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que cette matière cachée ? C'est pas la matière noire ni l'énergie noire, hein. C'est une partie manquante de ce qu'on appelle la matière ordinaire, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Alors en cosmologie, on a beaucoup de Graal, on a de la chance, on est très très actifs. Il y a plein de questions fondamentales qui s'ouvrent à nous sur l'évolution, l'histoire de l'univers. Et l'une d'entre elles, elle est finalement assez simple, oui, parce que elle ne se rapporte pas à l'étude de particules ou de matières exotiques, ce qu'on appelle justement la matière noire, cette matière noire dont on sait qu'elle existe parce qu'on en voit les effets indirectement, on en voit les effets notamment à travers l'évolution des amas de galaxies, leur formation, on la voit à travers les distorsions, les déformations de la lumière autour des objets massifs, on appelle ça l'effet de l'antillage gravitationnel. Donc cette matière noire qui est en fait faite de particules exotiques dont on ne connaît pas la nature et qui forme quand même 25% du contenu de l'univers, cette matière très très exotique, n'est pas ce sur quoi on travaille. Ce sur quoi on travaille avec mon équipe à l'Institut d'astrophysique spatiale, c'est la matière ordinaire, la matière toute simple. On l'appelle dans notre jargon la matière baryonique.
C'est la matière qui nous constitue, enfin qui constitue tous les galaxies, les planètes, les étoiles, nous, ce micro.
Tout à fait. En fait, les baryons, la matière ordinaire, les baryons sont essentiellement des neutrons et des protons qui forment les atomes les noyaux des atomes. Et les atomes forment les molécules nous forment. Donc en fait, c'est effectivement cette matière qui forme tout ce qui est accessible aujourd'hui au toucher. Ça forme les étoiles, ça forme les planètes, ça forme les tables, ça forme tout. Et cette matière ordinaire, elle ne constitue qu'environ 4 à 5 %, enfin moins de 5 % du contenu de l'univers entier. Donc c'est une toute petite fraction, mais c'est la fraction la plus importante finalement, parce que c'est la fraction qui nous forme, qui forme la Terre et qui forme tout ce qui est autour de nous.
Oui, c'est grâce à ça qu'on est là.
Tout à fait. Mais par contre, cette matière, elle réside effectivement dans des puits, dans des méandres qui sont constitués de cette matière noire, exotique. Et il est très important que ces deux types de matières coexistent l'une avec l'autre, parce que l'endroit, les positions, les conditions physiques de formation des étoiles, de formation des planètes, vont dépendre finalement de leur squelette de matière noire. Et par contre, toute la chair, tout ce qu'on va voir, tout ce qu'on va pouvoir percevoir, eh bien ça sera fait par la matière ordinaire.
Et dans cette matière ordinaire-là, donc vous dites la chair, hein, finalement, si le squelette, c'est les matières noires exotiques qu'on ne connaît pas du tout, dans cette chair, il y avait quand même 40% de matière qu'on n'observait pas, qu'on ne détectait pas, qu'on ne connaissait pas, qui était cachée.
Exactement.
C'est ça.
Qu'on ne pouvait détecter et qu'on pouvait prédire, notamment via des simulations numériques, via des études théoriques, et dont on savait finalement que cette quantité, cette grande quantité, environ 40% de la matière ordinaire, devait exister là, justement, autour de ce squelette de matière noire, dans une forme de gaz ténu, donc très peu dense, chaud, mais pas assez chaud pour émettre très fortement dans les rayons X, et dont on n'arrivait pas à percevoir finalement ni la lumière, ni les traces, parce que nos télescopes actuels n'étaient pas capables de le faire directement.
Donc indétectable, inobservable. Alors comment vous avez fait, Nabil Agani?
Indétectable, inobservable avec nos télescopes actuels, sauf à tricher un peu, à ruser un peu, en empilant l'information, en faisant des études statistiques. Et en fait, pour détecter cette matière, il était absolument inconcevable de la détecter de manière directe dans un filament de la toile cosmique.
Un filament de la toile cosmique. La toile cosmique, c'est des filaments avec du vide au milieu.
Tout à fait. Okay. En fait, les filaments de la toile cosmique, c'est un petit peu, on peut voir ça comme un réseau autoroutier. Alors, les villes sont les nœuds des filaments. En fait, on appelle ça des amas de galaxies dans notre jargon. Les filaments, ce sont les réseaux autoroutiers. Donc, il y a des autoroutes, il y a des routes, il y a des petites départementales, il y a même des sentiers. Et à travers ce réseau, ces filaments, la matière va évoluer, va couler et va se diriger vers les nœuds, va finir par former de gros amas de galaxies, mais néanmoins, pendant très longtemps, pendant la majeure partie de l'histoire de l'évolution de l'univers, cette matière reste à se déplacer dans ce réseau, et donc dans ces filaments, ces filaments de la toile cosmique, et elle est là. Elle se déplace, elle va couler lentement vers les amas, mais elle va couler lentement. Et donc, il faut la capturer, on a le temps de le faire, ça se passe sur l'équivalent d'une grande fraction de l'âge de l'univers, mais on ne peut pas observer un seul filament, un seul réseau. On est obligé d'empiler l'information. Et empiler l'information, ça veut dire détecter un très grand nombre de ces filaments. On en a détecté 24 000. Parmi eux, 15 000 ont été sélectionnés parce qu'ils avaient les bonnes propriétés, notamment les bonnes propriétés d'information et ainsi de suite. Et on a empilé cette information, on a dit plutôt que de regarder un filament, regardons la moyenne, bon, des quantités plus compliquées que la moyenne, je vais vous passer les détails,
merci.
Mais le signal de ces 15 000 filaments, et avec ce signal de ces 15 000 filaments, eh bien finalement, on augmente notre probabilité, on augmente l'information de chacun, et on peut détecter là du coup, cette matière qui était jusqu'à présent inaccessible à nos observations.
Alors j'ai même compris ce que vous m'avez dit, c'est quand même incroyable. Vous avez les yeux qui brillent, Nabila Agani. Quand on fait une découverte pareille, en équipe, à partir de statistiques, en revenant sur des données recueillies depuis des années, que vous avez recueillies vous aussi, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qu'on ressent? Là, on comprend bien l'intérêt de comprendre ça. Ça met du temps, il faut trouver la méthode. Et puis quand on y arrive et qu'on détecte cette matière cachée, qu'on pourra donc nommer, étudier ces baryons manquants, qu'est-ce que ça fait?
Alors c'est super excitant, parce que c'est vrai que la théorie et les simulations nous disaient que c'était là. Donc c'est un peu comme un rébus, quoi. Ou comme une tragédie grecque. On sait quelle est la fin de l'histoire et il s'agit de trouver la bonne manière de la raconter ou la bonne manière d'y arriver. Donc il y a cette excitation de dire « je sais que c'est là et comment faire pour le trouver ?» Et après, on trouve, et c'est hyper excitant, mais 30 secondes après, toute la question revient à se dire, est-ce qu'on a vraiment bien fait les choses ?
Et ça, c'est la méthode scientifique. Hein,
et ça, c'est la méthode scientifique. Et du coup, on a passé, avec mes collègues, des mois et des mois et des mois et des mois à refaire, à tester, à trouver toutes les raisons pour lesquelles on aurait pu se tromper, toutes les raisons pour lesquelles le résultat n'était pas le bon. On a changé d'approche, enfin, on a fait plein de tests de différents ordres. On a changé de données, on a complété avec des données. On a fait plein de trucs pour justement s'assurer que c'était bien là. Et alors là, à la fin, là, c'est vraiment super cool.
Et vous avez vraiment trouvé la matière cachée, la matière manquante de l'univers. Incroyable découverte, tout de même, dont on ne mesure peut-être pas encore toute la portée sur laquelle on continue de s'interroger à l'écoute de Sébastien Tellier sur RFI Universe. Sébastien Tellier sur RFI, autour de la question de la matière ordinaire, manquante, de l'univers, ces baryons cachés dans la toile cosmique, découvert par notre invitée, l'astrophysicienne et cosmologiste Nabila Aghanim et son équipe de l'Institut d'astrophysique spatiale du CNRS à l'Université Paris-Saclay. Une sacrée découverte qui ouvre de nouvelles questions astronomiques, comme celle que vous pose tout de suite Nabila Aghanim, une autre grande dame de l'astrophysique, la professeure Françoise Combe, médaille d'or du CNRS, titulaire de la chaire de cosmologie au Collège de France, qui était récemment notre invitée.
J'aimerais bien poser à Nabila la question de savoir si elle pense en effet que la matière baryonique, la matière ordinaire, est-elle vraiment dans les filaments cosmiques et est-ce qu'elle est sous forme froide ou est-ce qu'elle est sous forme chaude ?
Ça, c'est vraiment une question d'astrophysicienne à astrophysicienne. Mais éclairez-nous, répondez-nous, enfin, ce qu'on pourra nous en comprendre, même si avec Françoise Combe, vous pouvez aller plus loin, ça j'imagine, la ville a gagné.
Et alors, je remercie Françoise Combe pour sa question. Effectivement, c'est une question fondamentale. La matière ordinaire est... apparaît sous différentes formes. Alors d'abord, elle peut apparaître sous forme d'objets denses. Par exemple, les galaxies ou les étoiles, ce sont des objets denses. Mais elle peut apparaître aussi sous forme de gaz, un gaz diffus. Et la différence entre ces deux phases, une phase relativement dense et une phase relativement ténue, donc peu dense, dépend justement de quel endroit dans ce squelette de matière noire exotique la matière ordinaire se trouve. Si la matière ordinaire se trouve dans des puits de potentiel très très étroits, très très profonds, alors on aura toutes les chances de la trouver sous forme d'étoiles et de galaxies. Si par contre la matière ordinaire se trouve dans un squelette qui est, je dirais, un petit peu plus, moins profond, enfin un puits de potentiel un peu moins profond, on a la chance de le trouver sous forme de gaz. Donc déjà, ce qu'on sait, c'est que la matière ordinaire cachée est essentiellement sous forme de gaz sous forme d'étoile. Mmh. En réalité, la matière ordinaire dans l'univers est à 90% sous forme de gaz. Il n'y a que 10% de la matière ordinaire qu'on voit qui est sous forme de galaxie. Ça, on le sait parce que justement, on a fait des décomptes, la communauté des chercheurs a fait des études et donc on a cette information qui est relativement précise, une dizaine de pourcents en forme de galaxie. Le reste, c'est sous forme de gaz. Et la température de ce gaz, elle aussi, va dépendre des conditions dans lesquelles ce gaz existe. Et il se trouve que dans l'essentiel du gaz dans les filaments cosmiques, de l'ordre de 86 à 90% du gaz dans les filaments de la toile cosmique, est sous forme d'un gaz chaud. Et alors, ce qu'on entend par un gaz chaud, c'est un gaz dont la température est de l'ordre de 100 000 degrés Kelvin jusqu'à 10 millions de degrés Kelvin. C'est du très très chaud. Et c'est ce gaz qu'on a détecté parce qu'il est très très chaud, à travers l'émission, son émission dans les rayons X.
Mais quand vous traquez donc cette matière ordinaire, au fond, ce que vous cherchez aussi à comprendre, Nabila Ghanim, c'est l'origine, la formation des galaxies, des étoiles, enfin de nous, de tout, de toute cette toile cosmique de l'univers. Au fond, comment ça démarre, comment ça se concrétise, j'ai envie de dire, en galaxies, en étoiles, en planètes, en tables, en êtres humains, en vivant et en matière, en toutes les formes de matière.
Oui, alors je ne vais pas jusqu'à la vie. Il faut toute la diversité de la communauté scientifique pour aborder la question du début à la fin. Mais il est vrai que quand on étudie notamment les questions de cosmologie, c'est vrai que ça se ramène beaucoup à l'évolution. L'évolution à partir de conditions initiales. Alors on peut se poser des questions sur les conditions initiales. Finalement, qu'est-ce qui fait qu'il y a des toutes petites perturbations au tout début de l'histoire de l'univers, des perturbations de matière ou d'énergie qui vont finalement se transformer en ce qu'on voit aujourd'hui, les galaxies, les étoiles, les amas de galaxies. On peut aussi s'intéresser à qu'est-ce qui fait cette évolution. Non pas s'intéresser aux perturbations et à l'origine des perturbations tant que telles, mais étant donné un modèle qui nous est proposé aujourd'hui par la cosmologie moderne, le modèle notamment de ce qu'on appelle l'inflation cosmique, qu'est-ce qui fait que ces petites perturbations vont évoluer. Et quand elles vont évoluer effectivement avec différents contenus, différents ingrédients. Ce sont les ingrédients de notre univers. Il y a la matière, on a parlé beaucoup de la matière ordinaire, c'est la chair. Il y a la matière noire, la matière exotique, la matière sombre.
Qu'on ne connaît pas, on sait qu'elle existe, plus ou moins.
On sait qu'elle existe, on en a des évidences, c'est un anglicisme, on a des preuves observationnelles. C'est le squelette de cette toile cosmique. On sait qu'en plus de ces ingrédients, on a peut-être aussi une composante d'énergie, ou en tout cas de matière totalement inconnue
qui fait sombre.
L'énergie sombre, exactement. Je vois que vous êtes absolument
Je vous suis, j'arrive à vous suivre. C'est ça qui est génial.
L'énergie sombre qui, elle, fait quelque part que l'univers s'expand, grandit de plus en plus vite. On sait aussi qu'il y a d'autres particules, des neutrinos. Donc tous ces ingrédients, on les connaît et on sait qu'ils coexistent. Et ils coexistent et ils font ce qu'on voit aujourd'hui. Et ils ne font pas la même chose aux mêmes endroits, au même moment. Et donc, comprendre pourquoi, qu'est-ce qui fait cette différence, qu'est-ce qui va singulariser des endroits où on va former des galaxies, d'endroits où on ne va pas en former, des endroits où on va former des étoiles, d'autres où on ne va pas en former, des endroits où le gaz va atteindre des températures de 10 millions de degrés et d'autres où ce sera simplement 100 000 degrés. Tout ça, c'est effectivement comprendre finalement comment se structurent les grands objets, les grands astres de l'univers et comment finalement évolue notre univers.
Fabuleux. Question immense, question géante, sidérale, sidérante, auquel vous arrivez même, Nabila Ghanim, d'abord, vous arrivez à nous faire comprendre, ce qui est déjà génial, et même à apporter des embryons de réponse, des pistes en tout cas, autour de la question comment avez-vous réussi à traquer la matière cachée de l'univers. On poursuit votre formidable aventure scientifique, mais aussi humaine, avec un chant de vos origines, si j'ose dire, du côté de l'Algérie, du côté de la Kabylie. Vous avez souhaité écouter le poète et musicien kabyle Aït Mengelet. Plaisir à partager ensemble, tout de suite, sur RFI.
Question sur RFI.
Aïe, foule. أي مغربك نسيت قصيدة شكي لديت نفور نتوالي زمانك يقفنا ميهو دورتي قريما فار نبضى المين اللي لها أنا لابد جثتي يخسر يغند اللعب يفلالي القدر لذا سر النوم عيم عارك نسيت قصيد عشك إيلات يتنو الفول
sur RFI, ça fait vraiment du bien par où ça passe. Pourquoi ce choix, Nabila Ghanim ?
Pourquoi ce choix ? Alors d'abord parce que ça fait vibrer beaucoup, beaucoup de cordes à l'intérieur de mon cœur. parce que Ait Mengelet est un personnage fantastique, c'est un poète, c'est un des plus grands poètes de la langue kabyle. Je pense qu'il a une notoriété immense au niveau de l'Algérie. Il a une notoriété immense auprès des Berbères. Je pense qu'il est relativement peu connu par rapport à d'autres chanteurs de la langue berbère, de la langue kabyle. Notamment, je pense, parce que ces messages sont très politiques. Hein. Là, le thème de la chanson est d'interroger nos ancêtres. Hein. Donc, Inida Emrar, dis-moi, ô mon ancêtre. Et il interroge sur le passé et sur le futur, sur le présent, sur l'évolution, finalement. Hein. On parlait d'évolution tout à l'heure, l'évolution de l'univers. Et j'ai toujours trouvé sa façon d'aborder des questions fondamentales qui sont la culture, qui sont... les droits, qui sont la justice ou l'injustice, mais de manière toujours sobre, poétique. J'aime beaucoup finalement le minimalisme de la musique, la guitare, les sons traditionnels, les balades et voilà quoi. J'aurais beaucoup 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 de choses à dire de Ait Mengelet, mais en tout cas je vous remercie beaucoup de m'avoir
ça nous fait vibrer nous aussi, ça nous touche au cœur nous aussi. Alors précisons tout de même que l'astrophysicienne et cosmologiste que vous êtes, Nabila Ghanim, a été membre de la collaboration Planck, aujourd'hui de celle du satellite Euclide, parce que vous êtes une des grandes spécialistes de la quête des premières lumières de l'univers, hein, on peut le dire comme ça, du rayonnement fossile détecté par Planck. Alors jusqu'où nous entraînera cette mission Planck et jusqu'où vous allez nous entraîner, Nabila Ghanim ? C'est tout le sens de la question soulevée par un autre de vos éminents confrères, l'astrophysicien François Forget, spécialiste de l'exploration du système solaire, de Mars jusqu'à Pluton, qui était récemment notre invité. Il a évidemment une question pour vous.
Bonjour Nabila, ici François Forget. Alors, j'ai une question pour toi, car je t'ai entendu dire déjà, mais c'était il y a quelques années, que après la mission Planck, sur laquelle tu as beaucoup travaillé, eh bien, on ne pourrait rien faire de mieux pour observer le fameux rayonnement fossile du Big Bang et tout cela. Et alors moi, c'était il y a quelques années. Alors ma question c'est, mais alors si on ne peut pas faire mieux, comment on peut faire pour continuer à mener l'enquête ? Est-ce que tu as des idées ? Et depuis, tu te dis, bah si, on peut faire mieux et comment ?
Alors comment, Nabila Ghanim ?
Ne jamais dire jamais.
C'est ça.
Donc je vais préciser le sens de la phrase et de la déclaration que j'avais faite à cette époque-là. Et effectivement, on ne pourra pas faire mieux que Planck depuis l'espace en termes de mesure de la finesse de l'image que Planck nous a donnée. Alors,
Planck nous a donné une image entière
tout à fait
de l'univers, complètement insensé. Enfin, c'est un espèce de quoi de ballon allongé avec des teintes. Enfin, moi, je le décris comme je le vois.
C'est ça, le fameux ballon de rugby multicolore.
Le fameux ballon de rugby multicolore. peut-être un peu à coup de lumière hallucinogène, mais enfin bon, voilà, en gros, c'est ça.
Voilà, le ballon de rugby psychédélique qui, en fait, est la plus vieille image de l'univers qu'on peut avoir, ce ballon de rugby multicolore psychédélique, est en fait un amas de petites taches. Chaque petite tache correspond, enfin, de manière un peu plus simplifiée, à la température ou l'intensité, la brillance, la lumière qu'on a reçue, telle qu'elle a été émise quand l'univers avait environ 370-380 000 ans. Donc en fait, c'est la plus vieille photographie qu'on peut avoir. On ne peut pas avoir une autre photographie.
On ne peut pas remonter, il n'y aura pas assez de lumière, entre guillemets.
C'est pas qu'il n'y a pas assez de lumière, c'est que la lumière ne peut pas traverser, elle est assez opaque. L'univers, au-delà de cet âge, est complètement opaque. Et donc c'est la toute première et la seule lumière qu'on peut avoir de l'univers quand il était le plus jeune possible. Et ces petites taches, donc, qui sont de la lumière, de la brillance, nous renseignent sur, donc, ce qu'on disait tout à l'heure, sur la composition de l'univers, finalement, sur son âge, sur sa géométrie, sur les conditions initiales de l'univers, sur le tout début.
L'univers entier, on est d'accord.
Exactement.
On parle de...
On parle de l'univers entier. Oui. Le tout. Et il est vrai que cette image est la plus précise qu'on puisse obtenir. Alors bien entendu, il y a des télescopes au sol qui ont des tailles beaucoup plus grandes que la taille du télescope de Planck. Quand on lance un satellite dans l'espace, en fait, on est essentiellement limité par la masse, par le poids qu'on doit lancer avec la fusée. Et ça fait en fait finalement des limites sur la taille des télescopes. Mmh. Et donc, bien entendu, pour avoir des détails, des tâches de plus en plus petites, des détails de plus en plus fins de cette image, il faudrait des télescopes très grands, des télescopes de 10 mètres, des télescopes de 15 mètres, de 20 mètres. Ça, ce n'est pas réalisable. Ça, ce n'est pas réalisable. Enfin, aujourd'hui, en tout cas. Et du coup, on peut penser à installer des télescopes au sol. Donc, nos collègues américains en ont installé un certain nombre, des télescopes de 10 mètres, pour observer le rayonnement fossile. Mais le problème, là, du coup, c'est qu'on a des grands télescopes, c'est super, c'est fantastique, mais on est gêné par l'atmosphère de notre Terre qui va absorber, qui va empêcher d'observer certaines fenêtres de la distribution de la lumière et qui va donc nous empêcher de voir ou de comprendre parfaitement la distribution de cette lumière et donc le rayonnement fossile.
Donc on ne fera pas mieux pour le rayonnement fossile, pour les premières lumières de l'univers.
Pour l'image, pour la lumière, pour la température. Par contre, le satellite Planck, en fait, a en même temps qu'il a répondu à énormément de questions sur le cadre global de la cosmologie. Il a ouvert une question fondamentale qui était ouverte, bien entendu, à cette époque-là, mais à laquelle Planck a finalement ouvert encore plus le questionnement, qui est quel est le processus physique à l'origine des petites perturbations qui vont donner les structures. Grosso modo, la question posée, c'est quel est le processus physique derrière l'inflation cosmologique, l'inflation cosmique, cet événement qui a duré 10⁻³² secondes, c'est-à-dire 0,31 0 et 1, hein, 10⁻³² secondes, et qui a finalement fait grandir l'univers de 10⁻³⁰, donc 1 suivi de 30 zéros en termes de taille, cet événement exceptionnel, cette inflation cosmique qui a permis de faire grossir des perturbations microscopiques, des perturbations quantiques en fait, jusqu'à une échelle qui permet aux structures de commencer à peine l'histoire de leur formation. Et cette question fondamentale sur l'origine des perturbations...
C'est l'origine de tout, vraiment.
Eh bien, cette question, elle peut être, abordée à travers l'observation de la lumière du rayonnement fossile, non pas en termes de son image, mais en termes de ce qu'on appelle la polarisation, à savoir les propriétés des ondes électromagnétiques, de l'onde donc électrique et magnétique, qui forment la lumière. Et en comprenant comment ces ondes électromagnétiques sont agencées, alors, c'est ce qu'on étudie quand on étudie la polarisation du rayonnement fossile, alors on peut espérer avoir des réponses sur cette question.
C'est ce que vous cherchez actuellement.
Et c'est ce que je cherche d'une part. Et ce que je cherche d'autre part, c'est dans cette évolution de l'univers, on voit bien que les perturbations de densité les perturbations de matière vont grandir, vont croître par la gravité. C'est la gravité qui attire les objets les uns avec les autres et c'est elle qui va faire que les toutes petites perturbations vont devenir les immenses amas de galaxies dont on est en train de parler, les filaments cosmiques dont la taille est de l'ordre de 300 jusqu'à 300 millions d'années-lumière. Donc ça, c'est super, c'est la gravité qui fait ça. Mais cette gravité, elle est un peu contrecarrée par cette expansion cosmique qui va avoir tendance à ralentir toute cette formation, ralentir toute cette évolution, l'expansion cosmique, l'expansion accélérée, l'expansion de l'univers qui est liée à l'énergie noire. Et donc, un deuxième pan de mes questionnements et de mes recherches porte sur essayer de trouver la meilleure façon de contraindre, de comprendre ce qui est derrière cette expansion accélérée. Et ça, c'est à travers notamment mes travaux dans le cadre du satellite Euclide.
Sur lequel je travaille et qui
est un satellite donc de l'Agence spatiale européenne qui sera normalement lancé dans la deuxième moitié de 2022, donc assez bientôt.
Donc je suis en face de vous et vous venez de me dire, Nabila Ghanim, c'est quand même complètement fou, que vous êtes en train d'essayer de comprendre les origines de l'univers, comment de tout petit, minuscule, à partir de perturbations, ça a donné toutes ces galaxies, tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Pourquoi l'univers continue de s'étendre à ce point-là? Vous vous posez des questions alors astrophysiques, j'ai envie de dire quand même métaphysiques et philosophiques, vous en avez conscience.
Alors d'abord, ce que je souhaiterais dire, c'est que je ne suis pas la seule à me poser ces questions. En fait, il y a toute une communauté de chercheurs. C'est en sens où je disais, en cosmologie, on a beaucoup de Graal et heureusement, on est assez nombreux et assez performants, faut le dire aussi, soit au niveau national en France, mais aussi au niveau mondial, parce que là, c'est ce qui est beau aussi en fait en science, c'est qu'en fait, c'est un travail qui est collaboratif. Le satellite Planck et le satellite Euclide étaient des occasions pour des collaborations. Pour Planck, on était 600. Pour Euclide, on est pratiquement 1300 à 1400 chercheurs
du monde entier,
ensemble, à essayer de faire tout pour répondre à ces questions. Et ce qui est super chouette aussi, fantastique aussi, c'est que finalement, les données de Planck, comme le seront les données d'Euclide, seront livrées, distribuées à la communauté entière, c'est-à-dire en fait à toute la communauté des chercheurs qui n'a pas participé à ces expériences et qui pourra utiliser les données pour faire sa recherche partout dans le monde.
Science ouverte, je ne sais pas si vous réalisez tout ce que vous faites pour notre connaissance à nous. Mine de rien, l'air de rien, Nabila Ghanim, vous avez eu envie d'écouter David Bowie, extrait de son dernier album Black Star.
In the filler of all men, in the filler of all men, stands a solitary candle.
Star David Bowie sur RFI. Merci pour ce choix astronomique, Nabila Ghanim. autour de la question comment découvrir ce que vous avez fait, la matière cachée de l'univers, autour de toutes ces questions astronomiques. Oui, je dis bien astronomiques, ça tombe bien parce que nous, enfin, nos auditeurs sont de vrais fans d'astronomie. Ils cherchent à développer l'astronomie sur le continent africain, d'où notre nouvelle chronique mensuelle Ciel d'Afrique, à retrouver tous les 15 du mois en direct, mais aussi en vidéo, hein, sur tous les réseaux sociaux. En partenariat avec la revue web L'Astronomie Afrique, nous faisons même gagner des lunettes astronomiques, Nabila Aghanim. Et nous avons de la chance, car nos lauréats les partagent sur le continent, au Togo, au Gabon et bientôt en République du Congo. Partage d'observations et de nuits étoilées, grâce entre autres au planétologue Sylvain Boulet, votre collègue à l'université Paris-Saclay, qui aura même après l'éphéméride céleste une petite question à vous poser.
Ciel d'Afrique sur RFI. En partenariat avec l'Astronomie Afrique, Caroline Lachowski.
Cher Sylvain, en cette fin d'été, quels sont les moments astronomiques à ne pas rater sous le ciel d'Afrique ?
Alors, en cette fin d'août et en septembre, en fait, j'invite les auditeurs à observer le ciel le 9 septembre. Et en fait, il y aura un joli rapprochement, notamment entre un joli croissant lunaire et la planète Vénus, hein, l'étoile du berger, dans les lueurs du soir. Vous devriez pouvoir voir ce joli rapprochement. Essayez évidemment de l'immortaliser avec votre appareil photo.
Vénus, toute proche du croissant de lune, ça donne envie. Y aurait-il d'autres planètes à observer d'ici à la mi-septembre ?
Oui, Caroline, en fait, en ce moment, c'est sans conteste les mois de Jupiter et de Saturne qui sont vraiment bien observables. Alors, ces deux planètes qui sont plus brillantes que les étoiles environnantes, hein, se lèvent à l'horizon est en début de soirée et puis sont très hautes dans le ciel en milieu de nuit. Donc profitez pour voir ces deux planètes. Évidemment, en ce moment, la luminosité et la taille angulaire des planètes sont au maximal. Et donc vous allez pouvoir, côté Saturne, voir très bien les anneaux de Saturne qui sont bien ouverts, bien visibles. Et puis évidemment, profitez de regarder Jupiter au télescope parce qu'il y a un véritable balai de satellites. Si vous attendez quelques heures, vous allez pouvoir voir régulièrement les satellites bouger en live, donc profitez et observez bien ces deux planètes géantes.
Balai des satellites de Jupiter. Si je ne me trompe pas, Sylvain Boulet, le mois d'août est celui des étoiles filantes. Est-ce qu'on pourra encore en observer d'ici à la mi-septembre ?
Oui, alors évidemment, ce mois d'août a été marqué par les belles perséides. On en a vu effectivement plusieurs dizaines. Là, on commence tout doucement à sortir de ce nuage des perséides. Donc, on va en voir de moins en moins, mais il est encore possible dans les prochains jours d'en voir quelques-unes. Et puis, naturellement, dans les prochains mois, on va encore voir de nombreuses étoiles filantes. Je vous rappelle que la Terre traverse finalement près de 300 nuages de poussière laissés par les comètes. Et donc, finalement, une grande chance de voir de toute manière des étoiles filantes dans les prochaines nuits.
Encore quelques étoiles filantes donc à observer. Merci Sylvain Boulet pour ce petit rappel astronomique. On se retrouve bientôt autour du 15 septembre pour un nouvel éphéméride du ciel d'Afrique avec encore, c'est génial, une nouvelle lunette astronomique à gagner après celle remportée en juillet dernier par Dieu merci Kaseya de Lumumbashi en République démocratique du Congo. Ça n'arrête pas les lunettes astronomiques, cher Sylvain.
Et oui, elles pleuvent grâce justement à nos partenaires SSVI et RFI. Et donc vous pouvez éventuellement participer si vous le souhaitez, tout simplement en envoyant vos plus belles photos, vos vidéos ou encore un joli texte que vous avez écrit sur la page Facebook de l'Astronomie Afrique. Donc n'hésitez pas à participer. Le gagnant sera annoncé le 15 octobre. Pour finir, bien évidemment, bonnes observations, bon su à tous. Et n'oubliez pas, le ciel est le plus grand écran. Il suffit de lever les yeux.
Pour avoir la tête dans les étoiles, sous ce ciel d'Afrique, à observer en lien et en réseau interplanétaire, cher Sylvain, je crois que vous avez aussi une question à poser à notre invitée, l'astrophysicienne Nabila Aghanim.
Nabila, bonjour, je suis vraiment très content que tu sois ici avec Caroline. Et puis j'avais une petite question. Tu sais qu'avec Jean-Philippe Uzan, on a à cœur de développer l'astronomie en Afrique. On voulait savoir, pour toi, quelles étaient les thématiques les plus porteuses pour justement développer cette science en Afrique ?
À vous de jouer, si j'ose dire, Nabila Aghanim. Alors, vous n'êtes pas astronome, mais cosmologiste, astrophysicienne. Très amie, d'ailleurs, avec l'astrophysicien Jean-Philippe Puzan. Quelles sont vos pistes à vous, puisque vous voulez, vous aussi, développer, aider l'astrophysique en général, sur le continent ?
Alors d'abord, ça me fait vraiment super plaisir d'être entourée d'amis et de collègues. Je trouve ça vraiment chouette. Ça fait une ambiance familiale dans ce studio, là, d'entendre les noms.
Astronomiquement familiale, on va
d'entendre,
dire.
D'entendre les noms de copains, d'amis, de collègues, et qui font tous énormément pour la science, pour le développement de la recherche en astrophysique, en planétologie, en cosmologie, mais qui font aussi énormément de choses pour le développement des sciences en général dans le grand public, que ce soit en France ou que ce soit ailleurs. Et donc, c'est vraiment super. C'est une fantastique brochette que vous avez réussi à réunir là.
Le mieux, en plus, que j'ai envie de dire, c'est que ça marche auprès de nos auditeurs. On a entendu Christian Gbaba qui fonde maintenant la... Pardon, qui va faire la première AG de son association d'astronomie au Togo. Enfin, il y a vraiment des liens qui se créent pour développer aussi l'astronomie, les sciences spatiales sur le continent. Alors, vous-même, vous êtes du nord du continent, du côté d'Algérie.
Tout à fait.
Mais je sais que ça vous tient à cœur aussi, oui, de développer cette science ouverte. Vous disiez les données de Planck, les données de Clyde, elles vont être ouvertes à tous. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme piste et qu'est-ce, oui, qu'on pourrait faire pour effectivement soutenir le développement? Il y a des talents magnifiques, hein, sur tout le continent, ces sciences.
Oui, effectivement, je pense que c'est quelque chose qui peut se penser en fait à différents niveaux. Hein. Il y a un niveau qui est la promotion de l'astronomie comme science de l'observation, à intégrer, comme ça a été mentionné par justement le premier
Christian Gbaba, le premier lauréat
de la lunette, promouvoir l'astronomie dans les écoles, promouvoir l'astronomie auprès du grand public au niveau d'associations, c'est quelque chose qui est hyper important parce que ça montre que finalement les processus physiques peuvent être expliqués, qu'on peut expliquer les choses de manière scientifique et que effectivement on peut avoir des cosmogonies qu'elles soient inspirées de religion ou inspirées d'animisme ou n'importe quoi, mais qui sont pas en contradiction avec le fait que la science peut expliquer des choses et expliquer les observations. Ça permet de comme on mentionnait tout à l'heure, de renforcer la démarche scientifique chez les gens.
D'ouvrir l'esprit, s'émerveiller et de comprendre aussi, l'un n'empêche pas l'autre.
Exactement. Mmh. Et il est clair que les astronomes amateurs aujourd'hui, en particulier en Europe, entre autres, hein, accompagnent réellement l'astronomie professionnelle.
Ils ont un rôle à jouer. Hein.
Notamment par finalement l'acquisition de données qu'on ne peut plus avoir vraiment avec nos télescopes. Aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, les gouvernements réduisent les budgets pour focaliser leur budget sur des projets de plus en plus grands. Et finalement, les lunettes ou les télescopes les plus petits ont énormément de mal à vivre. Et néanmoins, ils ont leur place. Ils ont leur place, par exemple, pour la validation de certaines observations. Juste une petite anecdote.
Oui.
Dans le cadre du projet Planck, hein, que vous avez mentionné plusieurs fois, donc, une partie de mon travail a été de coordonner ou de faire la détection de nouveaux amas de galaxies. Alors, on avait détecté des candidats amas de galaxies, mais quand on en a fait une détection et qu'on sait que c'est un candidat, à un moment, il faut le confirmer. Sinon, ça ne va pas très bien. Donc, on a lancé des campagnes d'observation sur plein de télescopes professionnels et ainsi de suite. C'était super, on a acquis énormément de données. Mais ce qui était super intéressant, c'est que certains collègues, Christophe Ringeval, pour ne pas le nommer, en Belgique, qui fait de l'astronomie amateur, qui est un théoricien de pur jus, a réussi avec des collègues à lui, astronomes amateurs, absolument pas astrophysiciens ni physiciens, à faire des confirmations de nos candidats avec des télescopes et des lunettes astronomiques d'amateurs. Et avec une qualité qui était quasiment équivalente à certains des télescopes qu'on avait utilisés.
Ça, c'est de la science participative,
c'est de la
astronomique,
science participative.
Hein, c'est ça. Hein.
Alors Sylvain, ouais. Fait participer aussi justement énormément le public dans le suivi ou la collecte des données sur les météores dans son projet Fripon.
C'est Fripon, oui,
exactement,
c'est ça,
dans son projet Fripon. Et donc il y a plein il y a du suivi des planètes extrasolaires aussi qui peut se faire avec des télescopes relativement petits. Et tout ça, c'est faire participer le public averti, mais pas forcément professionnel, à l'avancée des sciences. Ça, c'est un aspect. Après, il y a un aspect qui est différent, qui est l'aspect, je dirais, plus institutionnel, ou faire avancer, ou faire émerger des talents dans la recherche professionnelle.
C'est ça, sur le continent.
Exactement. Et là, en particulier, je souhaiterais mentionner l'initiative qui est mise en place par un certain nombre de collègues de la diaspora africaine et du continent africain, qui a pour but de mettre en place une feuille stratégique pour le développement de la physique fondamentale et de la physique appliquée. Et en particulier, donc j'ai deux de mes collègues.
Sur le continent, pour développer, pour faire la formation d'étudiants.
une partie de formation, une partie d'éducation, une partie de sciences participatives et une partie de développement des infrastructures de recherche, des besoins en calcul, de la participation à des grands projets internationaux, de la réalisation de projets intra-africains dans les pays de l'Afrique, c'est-à-dire une collaboration interne de l'Afrique.
Et donc, c'est qui s'occupe de cette donnée? Donnez-nous leur nom,
notamment de nous, notamment de nous, Fayrouz Malek à Grenoble et Ketevi Assamagan, qui est en même temps au Bénin et en même temps aux États-Unis, et qui sont deux des fondateurs de cette initiative pour cette feuille de route stratégique qui donc a débuté. Il y a eu un kick-off, le début de cette activité qui va se prolonger sur au moins une année, s'est fait le 18 novembre. Et je pense que c'est vraiment, vraiment très, très bien parce qu'il y a un aspect qui est un aspect institutionnel et un aspect de recherche fondamentale et appliquée. Mais je pense réellement que le commun des mortels avertis peut participer. Et il y a déjà des associations qui sont complètement, complètement actives.
Et oui, et c'est l'idée au fond que cette physique fondamentale, que ces recherches puissent se faire sur le continent à partir de questions posées sur le continent. Enfin voilà, que ça soit vraiment de faire rentrer le continent dans la communauté scientifique. Enfin,
tout à fait.
Voilà,
il y a énormément de pépites en Afrique. Il y a énormément de pépites dans la diaspora africaine. Et comme dans toute diaspora, un peu comme la Chine l'a fait à un moment, envoyer ses étudiants, puis les récupérer et construire des programmes de recherche d'envergure internationale. Je pense qu'on est absolument capable de le faire et qu'on a toutes les compétences pour le faire.
Merci Nabila Aghani, on ne va pas vous lâcher, on ne va pas lâcher non plus votre consoeur de Grenoble, Fayrouz Malek et d'autres. Hein. Merci infiniment Nabila Aghani d'avoir été avec nous, partager vos recherches, vos découvertes, vos interrogations astronomiques et nous les faire comprendre. Ça fait rêver, ça permet de remonter le temps et l'espace et puis ça nous met en lien pour cette année 2021, astronomiquement en lien. Merci Nabila Aghani, vous revenez quand vous voulez.
Je vous remercie Caroline. Bonne année à tout le monde et à Gwassam Ghez pour les berbérophones.
Merci à Nabila Aghani pour cette bonne année souhaitée en VO lors de la première diffusion de cet entretien le 13 janvier 2021, qu'on pourrait presque transformer en bonne rentrée en cette fin d'été sous les étoiles. Exactement, c'est Mélodie Gardot, une autre étoile filante qui nous enchante sur RFI.
Les étoiles, dites-moi étoile, pourquoi j'ai vos regards. Les étoiles, dites-moi étoile qui vous regardera. Volato, lato, rato, lado, lado. Volato, lato, lado, rato, pompidato, lado, rado. Les étoiles, si seulement je savais. Dites-moi étoile, de qui obtenez-vous la lumière? Les étoiles, vous qui êtes belles dans les cieux. Dites-moi étoile, qui vous donnera l'amour? Volato, lato, rodo, lado. Lato, lato, lado, rata, pampita, tola, pumba, lado, lado.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager, à vous abonner à notre podcast. Demain, dernière rediffusion estivale de la saison et pas des moindres. En compagnie du neuroscientifique Lionel Nakache, nous découvrirons pourquoi et comment notre cerveau fait son cinéma intérieur en 13 images par seconde. À demain, sur la toile de notre écran mental avec Hugo Violas à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses et Caroline Lachowski au micro. Merci pour votre curiosité sans cesse renouvelée. Surtout, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure de retrouver le prochain journal.
Les étoiles, dites-moi étoile, pourquoi je vous regarde.